Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord.
Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bienvenue, c'est l'émission Cinérama, une émission avec des films qui sortent ce mercredi 2 mars, et puis des films qui sont déjà sortis depuis un petit moment, n'est-ce pas Marine ?
Oui, moi je vais vous parler de Deadpool de Tim Weller, donc qui est sorti déjà il y a 2 semaines, mais qui cartonne complètement au box-office, donc ce n'est pas grave d'en parler un petit peu plus tard. Et je vous parlerai également des Césars qui sont tenus la semaine dernière.
Donc ça, on sera complètement dans l'actu, et puis toi Manu, c'est pareil, t'es un peu en décalage avec les films.
Oui, donc je vais vous parler d'un film qui s'appelle Un jour sans, un jour avec, du cinéaste coréen Hong Sang-soo, et on ne peut pas dire qu'il cartonne en revanche, mais c'est un très beau film.
Il est dans très peu de salles.
Voilà, il est dans très peu de salles. Et puis un film iranien, Naïd, qui est sorti mercredi dernier.
Qui doit être dans 2 fois plus de salles, mais ça va faire 20 salles en France. C'est ça ?
Oui, mais il fonctionne assez bien.
Oui. Et puis, moi, je vous parlerai de Moonwalkers. Ça, c'est une sortie du 2 mars. Ce sera l'occasion aussi de rendre hommage à François Dupeyron, un réalisateur que j'apprécie beaucoup et qui m'avait marqué dans la rencontre qu'on avait eue. Mmh. Tu étais là, Marine. Je l'ai rencontré 2 fois, mais lors d'une rencontre, oui. Tu étais là. Et voilà, on rendra un petit hommage en fin d'émission. Et puis, on écoutera un petit montage spécial César. Je m'associerai à ta chronique. C'est Cinérama.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Et on commence donc tout de suite avec Deadpool. Wade Wilson est un mercenaire, ancien paramilitaire trop turbulent pour être gardé par l'armée, qui gagne sa croûte en tuant ou en effrayant des gens de façon rémunérée. Il coule également le parfait amour, il coule des jours heureux, il file le parfait amour, voilà. Avec Vanessa, une gogo danseuse, jusqu'au jour où il découvre qu'il est atteint d'un cancer généralisé et qu'il ne lui reste plus longtemps à vivre. Un certain Ajax, comme les produits d'entretien, l'invite alors à expérimenter un protocole médical top secret censé le transformer en mutant et ainsi le guérir de sa maladie. Wade devient alors Deadpool, un mutant dont le corps se régénère instantanément, mais il n'a pas pour autant la moindre envie de sauver des gens, ni d'aider la Terre. Non, Deadpool a pour seule idée de remettre la main sur Ajax afin qu'il l'aide à retrouver une figure normale, la sienne ayant brûlé au cours de l'expérience.
Vous vous dites, c'est censé être un film de super-héros, mais le mec en costume vient de transformer l'autre mec en putain de brochette. Surprise, c'est pas vraiment ce genre de film de super-héros. Et pour bien comprendre, il faut remonter avant l'époque où je me moulais le cul au lycra.
Monsieur Wilson, vous venez d'être diagnostiqué cancéreux en phase terminale.
On va se battre.
Et si on pouvait vous guérir et vous donner des pouvoirs dépassant l'entendement?
Alors je dirais que ça fait téléachat, mais enfin pas ceux où on se marre, genre coupe légumes, plutôt dégorge poireaux. Si je te revois plus jamais, il faut que tu saches que je t'aime.
Quand j'aurai fini, tes cellules mutantes guériront de tout. Toi, tu crois toujours qu'on va te changer en super-héros. Ce sera plutôt super-esclave.
J'ai pas demandé à être super. Et je suis pas un héros. Mais quand ton pire ennemi s'attaque à ta chérie, y a pas à chier. On devient un super-héros.
Bon, alors le doublage français est horrible, donc surtout voyez-le en version originale comme moi. Deadpool est en passe de devenir le film Marvel le plus rentable de l'histoire. Personnellement, j'ai dû m'y reprendre à 4 fois pour pouvoir le voir. Toutes les séances étaient pleines. Et cela malgré un budget de seulement 58 millions de dollars. Alors oui, 58 millions, évidemment, ça nous permettrait de vivre tous les trois tranquillement pendant environ 150 ans. Mais en comparaison avec le budget de Batman versus Superman qui s'élève à 410 millions, autant dire que le budget de Deadpool, c'est comme si voilà, c'était le budget d'un film de Philippe Garrel tourné dans une chambre de bonne à Paris, quoi. Alors c'est sans doute justement le maigre budget, qui d'ailleurs ne se remarque absolument pas en termes de qualité ni d'effets spéciaux, qui a permis aux auteurs de garder une certaine liberté artistique dans un Hollywood très consensuel, puisque le film prend à revers la franchise Marvel et n'y va pas de main morte. Contrairement aux Gardiens de la Galaxie, sorti il y a environ 2 ans, qui se voulait audacieux mais très vite, qui revenait dans le droit chemin avec les passages obligés du film de super-héros et des dialogues assez naïfs, Deadpool tient sa ligne de conduite, ou plutôt de mauvaise conduite, en gardant tout du long un rythme soutenu, un humour qui ne cède jamais aux bons sentiments et une structure scénaristique qui refuse toutes les conventions hollywoodiennes. Alors oui, l'humour est lourd, mais au moins c'est vraiment politiquement incorrect, ça parle de prostate, de pédophilie, enfin on s'amuse beaucoup. Les personnages féminins ne sont même pas stéréotypés, vous pouvez vous douter que j'ai vraiment cherché de quoi critiquer, et ben non, même pas. Et les scénaristes ne se sont pas sentis obligés de nous coller des scènes d'action et d'explosion toutes les 2 minutes. Pourtant, eh bien, on ne s'ennuie jamais, comme quoi, bah, quand on a des bons dialogues, pas besoin de faire tomber des immeubles toutes les 30 secondes pour remplir le vide. Le film est clairement calibré pour plaire à la fois aux fans de Marvel et à ceux qui n'aiment pas Marvel, ce qui est quand même assez fort, puisque d'un côté, les fans auront droit à de multiples références, c'est même d'ailleurs assez dur, hein, de tout comprendre. De l'autre, les anti-Marvel se réjouiront en voyant l'univers des célèbres comics américains en permanence tourné en dérision. Et pour finir, eh bien, cerise sur le gâteau, Deadpool va même vous faire aimer Ryan Reynolds. En même temps, il joue avec une cagoule pendant tout le film, donc c'est peut-être pas lui. Mais en tout cas, enfin, voilà, Reynolds, qui s'est beaucoup impliqué dans le projet, qui s'est vraiment battu pour qu'il voit le jour, qui l'a aussi produit, et puis qui joue plutôt bien, en fait, qui est vraiment bon comme ça, en anti-héros, à contre-emploi. Je dirais que la seule chose qui est dommage, c'est qu'il soit déjà en train de préparer un second Deadpool. Mmh. Parce que justement, ça va un petit peu contre justement tout ce qu'ils avaient voulu instaurer. Et là, finalement, il rentre dans le moule. Donc c'est un petit peu dommage, et je suppose que le 2 va être nul, mais vraiment sur le 1 il n'y a rien à dire et on passe un très bon moment, je vous le conseille vraiment en version originale impérativement.
Bon, pas étonnant en fait qu'il fasse un deuxième Deadpool, c'est comme ça pour la série X-Men, c'est voilà.
Bah oui, mais bon là comme voilà, c'est quand même vraiment censé aller à contre-courant de voilà de tout ce que fait Marvel, de toute cette franchise. Ils se moquent beaucoup de cette franchise, etc. Là justement, le fait qu'ils en fassent un second, ça tue un petit peu tout ce qu'ils avaient mis en place, quoi. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage.
Je pense qu'ils ont vu les bénéfices. Hein. Tu as bien parlé de ça. 50 millions de mise, je pense, pour en rapporter 4 fois plus. Enfin voilà. Merci, Marine.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Alors c'est toujours un peu délicat de s'en prendre à un film courageux, hein, pétri de bonnes intentions et surtout réalisé dans des conditions difficiles dans un pays où la liberté artistique est plus que restreinte. Alors je dis tout de suite, hein, Naïd n'est pas un mauvais film, au contraire, il fait preuve d'un savoir-faire indéniable tant d'un point de vue de l'écriture que de la mise en scène, souvent très maîtrisé, mais peine à sortir des sentiers battus et à proposer un regard original et pertinent au sein d'un cinéma iranien qui me paraît, moi, souvent conventionnel. Bon, si l'on exclut les films de Pahani, qui sont très bons, et surtout de Kiarostami, qui est tout de même le plus grand réalisateur iranien. Et c'est pas étonnant que c'est le plus connu aussi, pour le coup. Alors pourtant, Naïd risque de plaire, hein, car si je ne suis pas totalement convaincu, il a pour lui une réelle efficacité narrative. Les réactions très positives de la critique et du public en témoignent. Alors le sujet est assez simple, hein. Naïd, jeune divorcé, vit seul avec son fils de 10 ans dans une petite ville au bord de la mer Caspienne. Selon la tradition iranienne, la garde de l'enfant revient au père, mais ce dernier a accepté de la céder à son ex-femme à condition qu'elle ne se remarie pas. Alors là, l'une des raisons, c'est que son ex-mari est un délinquant et ancien toxico. Naïd rencontre un homme alors qu'il aime passionnément, hein, ce prince charmant iranien, hein, qui pourrait presque sortir d'un film d'aventure des années 60, sorte de chevalier des temps modernes, souhaite évidemment épouser Naïd. Ce personnage improbable, à mon sens, est un peu le grain de sable du film qui rend peu crédibles les situations et en même temps insuffle au film un aspect rafraîchissant. En contrepoint, l'ex-mari, qui ressemble étrangement à Michael Youn, c'est vrai. J'ai bloqué pendant tout le film.
Oui, bon, c'est un peu bizarre dans un film
iranien de dire ça. Bon, lui, c'est un peu une caricature gênante du raté qui, évidemment, se fait défoncer la gueule par des malfrats à qui il doit de l'argent. Alors, situation que l'on retrouve dans tout un pan du cinéma mondial, et c'est là que le film se dévoile. Sinon, on note, en fait, toutes les considérations politiques, sociales et géographiques de Naïd, qui reste forte malgré tout, le film s'apparente à un drame conjugal classique, bénéficiant d'un suspense plutôt prenant. Mais la forme comme le fond ne s'élève guère au-dessus d'un certain académisme que l'on retrouve dans tout un pan du cinéma français classique des années 70 à nos jours. Il y a même parfois, alors en moins bourgeois, mais sans non plus sombrer dans le misérabilisme, un petit côté Claude Sauté, notamment dans le traitement de l'image, baignant dans des lumières un peu grises et marron, un peu déprimantes, et bénéficiant de très beaux cadres valorisés par un montage pertinent, sans temps mort. Naïd est un beau portrait d'une femme qui lutte chaque jour contre un mari, un frère et un fils qui font la loi. Alors Sare Bayat, l'actrice, hein, est bouleversante dans le rôle de cette femme complexe qui est loin d'être une sainte et éclipse tous les autres personnages quand même très stéréotypés. Alors constamment cadenassée par des choix qui n'en sont pas tout le temps au sein d'un système répressif qui déconsidère la femme, et bon, et là je reste poli, Naïd se bat parfois contre des moulins mais reste tiraillée entre vivre heureuse sans son enfant avec l'homme qu'elle aime ou vivre un enfer en gardant son fils déjà pré-délinquant. Alors la jeune cinéaste, je ne vais pas arriver à prononcer son nom, je pense.
Mais si.
Ida Panande.
C'était simple,
oui,
en fait.
Oui, ça doit être ça. Mais non, parce que c'est compliqué la façon dont c'est écrit. Alors, après une séparation d'Asghar Farhadi, traite à nouveau du divorce en Iran, sujet tabou, avec un réel talent, mais aussi un manque flagrant de personnalité, voire de point de vue original. Alors, par ses qualités esthétiques qui sont réelles et son sens du rythme, Naïd devrait permettre à la jeune cinéaste iranien de réaliser un film, à mon avis, en France prochainement, et je dirais même avec des stars.
Et tu mises sur qui ? Sur quelle star ?
Je ne sais pas. Mais j'en suis presque sûr. Il y a une forme tellement, je dirais, européenne, enfin, très classique, et c'est assez efficace. Mmh. Je pense que c'est un peu le même ce qui est arrivé à Faraday quand il a fait une séparation.
Oui. Et puis, il y a Kiarostami qui avait pris Juliette Binoche aussi dans, dans un film.
Dans un film. Il a été aussi au Japon, Kiarostami. Il a fait un film japonais.
Merci Manu pour ce détour du côté de la filmographie iranienne.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Alors, nous allons parler, eh bien, c'est l'actu, de la 41e cérémonie des Césars qui s'est déroulée, c'était vendredi 26 février, c'est ça.
Oui.
Et avec eh bien, des grands gagnants, des grands perdants, j'ai l'impression, d'Ipan notamment, de Jacques Audiard. On va l'entendre dans ce petit condensé de la cérémonie avec quelques, une partie du palmarès et puis... On va essayer de saisir aussi l'ambiance de la maîtresse de cérémonie, enfin, de l'ambiance qu'a insufflée la maîtresse de cérémonie, Florence Foresti. C'est ce spécial César.
Vous voulez savoir la vérité ? La vérité vraie ? Ce que personne n'ose vous dire.
11 nominations pour le film d'Arnaud Desplechin, 3 souvenirs de ma jeunesse.
3 nominations pour La loi du marché. 8 nominations pour le magnifique film La tête haute. 8 nominations pour Mon roi. 11 nominations pour Marguerite.
D'Ipan de Jacques Audiard est également nommé, bien sûr, pour le meilleur film. 9 nominations. L'équipe de Fatima et les Cowboys. Ah, c'est deux films. Fatima? Ah, d'accord.
Oh, ça va, là. Tu te calmes. Tu baisses d'un ton, s'il te plaît.
Et bien sûr, Mustang, qui nous représente dans 2 jours aux Oscars. Mustang. Vous êtes juste le préféré des membres de l'Académie pour une année. Ah, déjà,
c'est
calme.
Non, c'est très intéressant. C'est très personnel.
Claude Lelouch.
J'ouvre cette 41e cérémonie des Césars.
Le César du meilleur costume est attribué à...
Pierre-Jean Larocque pour Marguerite.
Et le César du meilleur son est attribué à François Musy et Gabriel Hafner pour Marguerite.
Le César des meilleurs décors est attribué à Martin Curel pour Marguerite.
Le César pour la meilleure actrice est attribué à Catherine Froh.
Si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, Marguerite.
Elle a toujours chanté comme ça ? Ah non, elle a beaucoup progressé.
Le César du meilleur espoir masculin est attribué à Rod Parado dans La tête haute.
On a combien de temps déjà pour parler ?
2 minutes.
Enculé !
Le César est attribué à Benoît Magimel. La tête haute.
Le César de la meilleure photo est attribué à... Christophe Offenstein pour Valley of Love.
Il y a un planning des endroits où vous devez aller, le jour précis et les horaires.
Et le César du meilleur montage est attribué à Mathilde Van de Mortel pour Mustang.
Le César de la meilleure musique originale est attribué à Warren Ellis pour Mustang.
Et le César du meilleur scénario original est attribué à Denise Gamzé-Erguven et Alice Vinocourt pour Mustang.
Alors le César du meilleur premier film est attribué à Mustang.
Le César de la meilleure actrice dans un second rôle est attribué à...
Sitze Babette Nussen.
Sacrebleu !
Le César du meilleur acteur est attribué à... Vincent Lindon.
Entre la formation, les CV que j'ai envoyés, 4 mois j'ai perdu.
Qui es-tu ? Je ne sais plus.
César de la meilleure réalisation est attribué à Arnaud Desplechin.
Pour 3 souvenirs de ma jeunesse.
Est-ce que quelqu'un t'a déjà aimé plus que sa vie ? Moi, je voudrais t'aimer comme ça.
Le César du meilleur espoir féminin est attribué à Zita Enro dans Fatima.
Merci beaucoup.
Le César de la meilleure adaptation est attribué à...
Philippe Faucon pour Fatima.
Arrête de délirer un peu.
Le César du meilleur film est attribué à... Fatima.
Mon bonheur, il est comblé. Complet.
Voilà, donc c'était Marguerite, là, une des grandes gagnantes de cette cérémonie, Marine.
Oui. Alors donc, comme il a été dit à la fin de la cérémonie, eh bien on pourra dorénavant considérer qu'il y a eu un avant César 2016 et un après. Et cela grâce à Florence Foresti, l'humoriste qui était maîtresse de cérémonie et à qui quand même le rythme de cette 41e cérémonie doit beaucoup. À tel point qu'on avait l'impression d'ailleurs que c'était le nouveau spectacle de Florence Foresti, avec plein de gens connus dedans plutôt que les Césars. Alors on avait déjà essayé de pimenter un peu la cérémonie auparavant avec des personnalités un peu décalées. Finalement, Cécile de France était toujours très coincé, Edouard Baer était très éteint, Antoine Decaune avait gentiment passé les plats, bref, il manquait toujours quelque chose, et en plus la cérémonie dépassait immanquablement minuit. Cette fois, eh bien, le show a été pensé à l'américaine, comprenait chorégraphie, comprenait interprétation de Christine and the Queen, comprenait sketch entre chaque César, on a même fait venir des stars de la télé, on a même fait venir Louane, Jérôme Commander et même des youtubeurs, c'est-à-dire quand même si la révolution est en marche. Florence Foresti était même tellement à l'aise que les interventions extérieures paraissaient horriblement mollassonnes, on avait l'impression que le cinéma français entier était sous tramadol, mais bon, comparé aux années précédentes, la soirée avait quand même des allures de Fast and Furious. Rien à dire sur la forme et presque rien à dire pour ma part sur le palmarès également, qui a été, je trouve, assez réjouissant. Gilles Lellouche, qui viendra décerner le César du meilleur film, le fait même remarquer. Cette année, les femmes sont à l'honneur. Enfin, c'est normal, mais on va dire que c'est quand même un peu plus que les autres années, puisque dans la catégorie meilleur film, c'est la première fois que 3 films réalisés par des femmes concourent. Et puis, cette année, quand il n'était pas fait par des femmes, les films tournaient autour de figures féminines atypiques, fortes, voire carrément rebelles, comme pour Mustang, l'un des grands gagnants de la soirée. À noter également des femmes distinguées dans la catégorie scénario et montage, ainsi que dans la catégorie meilleur court-métrage et court-métrage d'animation, puisqu'il s'agissait de réalisatrices. Alors, seule déception pour ma part, l'absence totale de Monroy au palmarès. Moi, je trouve ça un peu dommage, j'aurais aimé un prix d'interprétation, ou voire du scénario, que je trouve quand même très très juste, et très bien écrit et très bien pensée. Et j'ai trouvé aussi ensuite également dommage qu'il y ait eu aussi peu d'analyse dans la presse, que finalement les médias soient plus intéressés aux robes portées par les actrices aux Oscars, qui se tenaient 2 jours plus tard, qu'au César chez nous. Philippe Faucon, qui a quand même reçu le César du meilleur film, et ce que je trouve très bien, parce que ça veut dire que la profession salue son travail, c'est quand même un cinéaste qui s'est toujours battu dans son coin pour pouvoir produire ses propres films, qui a toujours eu beaucoup de mal. C'est quand même dommage qu'il n'ait eu aucune couverture médiatique dans les jours qui ont suivi. Alors bon, certes, DiCaprio est bien plus glamour que lui, mais je trouve ça un peu injuste. Mais bon, après, c'est un problème de la part des médias chez nous. Hein. C'est... On n'y peut rien.
En tout cas, ça va booster un peu la carrière du film.
Oui, puisqu'il ressort.
Ressort aujourd'hui. Enfin, il sort le 2 mars. Et sinon, dans cette cérémonie, c'est vrai qu'il y avait, une connotation aussi, avec des films qui s'installait dans la réalité, c'est la loi du marché avec l'interprétation de Vincent Lindon, où là, c'est un acteur, finalement, un grand comédien qui va essayer de jouer quelqu'un qui ressemble à tout le monde. Voilà, prix d'interprétation, mais alors là, c'est sur le même mode que Cannes. Et puis, il y a aussi Le meilleur espoir.
Rod Pardo.
Voilà, qui joue dans La tête haute, qui lui a été pris lors d'un casting alors qu'il était donc lycéen dans un lycée professionnel, qui n'est absolument pas comédien. Et pareil, on le récompense. Enfin, je trouve ça amusant ce rapport entre un métier et puis finalement quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce métier-là. Et c'est comme si on demandait, et c'est pas la première fois, parce que Louane aussi avait été choisie l'an dernier comme meilleur espoir féminin. Et c'est comme si on demandait finalement à un réalisateur, on va lui dire au bout d'un moment, bon, toi, on sait, t'as fait 3 films, mais on va prendre quelqu'un qu'on n'a jamais fait. On va voir comment ça se passe. Et il y a quelque chose d'assez étonnant finalement de récompenser des personnes qui sont pas absolument pas comédiens. Oui. Ça, oui.
Exactement.
C'était un peu le cas cette année et l'année précédente. Mais en tout cas, il y a eu vraiment un palmarès plutôt dédié aux films un peu réalistes. Moi, je suis très content que...
Engagé. Ouais. Un petit peu engagé.
Mais je suis quand même très content qu'ils aient donné le César du meilleur réalisateur à Desplechin. Parce qu'il n'a pas remporté beaucoup de...
Mais alors moi, je n'avais pas du tout aimé son film. Donc...
Mais n'empêche que quand on voit son film, on sent qu'il y a un réalisateur. Je pense que là, pour le coup, contrairement... Oui, j'aime beaucoup ce que fait Philippe Faucon, mais on sent moins...
Oui, sa patte, on sent moins...
On sent moins une forme derrière ce que fait Philippe Faucon. Voilà, ainsi s'achève le point sur cette cérémonie des Césars, mais on ne se quittera pas sans Roche Dizem, qui a son petit avis sur, la remise des prix.
Il y a un truc que j'aime pas dans les Césars, c'est pourquoi, si vous avez un César à donner à un acteur, pourquoi vous en invitez 5? Qu'est-ce qu'on fait des 4 autres? Vous allez à un anniversaire, il y a un gâteau, mais il n'y a qu'une part. Moi, j'ai envie de donner une part à tout le monde. Donc, si vous avez un César à donner, invitez le type qui a le César. Laissez les autres tranquilles chez eux.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Et si les Américains n'étaient jamais allés sur la Lune, si nous devions les images de l'alunissage et du planté de drapeau aux équipes de Kubrick, encore stimulées par le tournage de 2001, l'Odyssée de l'espace, le grand maître aurait profité eh bien, des studios pour offrir de belles images à la CIA. L'agence aurait pu ainsi épater le monde en 1969 sans risquer la vie eh bien, de ses astronautes. C'est une théorie du complot, très bien mise en scène et tournée en ridicule dans Opération Lune, qui est un documentaire de William Carell, un faux documentaire présentant pour vraisemblable eh bien, cette théorie du complot. Antoine Bardou-Jacquet, le réalisateur de Moonwalkers, part du même postulat. Si on accepte l'idée que la CIA est derrière les fausses images de la Lune, alors comment ont-ils fait pour arriver à leur fin, les agents secrets ? Mais encore faut-il que ça soit eh bien, une comédie, parce qu'un drame historique ne ferait bien sûr qu'alimenter le complot. Donc il y a encore des spectateurs hein, qui tiennent pour vrai la vraisemblance au cinéma. Et ça, ça peut être dangereux. Et d'ailleurs, Florence Foresti le rappelait brillamment lors de cette cérémonie des Césars. Avec Moonwalkers, il s'agit donc d'en rire. Et pour s'en payer une bonne tranche, eh bien, on va nous plonger dans l'univers psychédélique de la fin des années 60. Une période euphorisante avec le LSD, Woodstock, du pop art, les Rolling Stones, Led Zeppelin et j'en passe. Alors, de retour du Vietnam, on propose à Tom Kidman, l'un des meilleurs agents de la CIA, de filer à Londres, demander à Stanley Kubrick, qui vient d'en terminer donc avec 2001, l'Odyssée de l'espace, eh bien, de filmer l'alunissage d'Apollo 11 au cas où la mission échouerait. Et c'est Ron Perlman, un des plus grands géants dur à cuire du cinéma, hein, celui qui joue notamment l'idiot dans Le Nom de la Rose, qui interprète l'agent américain. Alors, une fois à Londres, eh bien, il ne va pas rencontrer Kubrick, évidemment, hein, mais Johnny, le manager raté d'un groupe de rock hippie. Et pour interpréter le manager qui voit là l'occasion de se faire beaucoup d'argent, eh bien, c'est Rupert Grint, le Ron d'Harry Potter, que je n'avais pas vu, moi, personnellement, depuis très très longtemps. Il a bien grandi. La rencontre est improbable et va orchestrer une histoire délirante mettant en jeu un agent secret un peu tendu, victime de stress post-traumatique dû à son expérience au Vietnam, et puis un manager en déveine qui doit beaucoup d'argent à des mafieux. Et puis une flopée de personnages intrigants ou délirants, puisqu'on va passer une bonne partie du film eh bien, dans une maison psychédélique transformée en studio de cinéma où les drogues sont expérimentées en quantité non négligeable. Moonwalkers repose sur des situations potentielles incontrôlable, un casting avec des personnages au physique ou aux tenues extravagantes et se nourrit de son décor un peu halluciné. Alors sans que cela soit arrêté, il y a quelques brillantes scènes de comédie, mais dans son évocation des années 70, il est beaucoup moins subtil et hilarant finalement qu'Inherent Vice de Paul Thomas Anderson qui dépeignait aussi les années 60 avec une part un peu plus inquiétante. Alors reste que les fausses images de la Lune, point culminant du film, eh bien, sont bien orchestrées et pour peu que vous ayez aussi pris une substance psychotrope, eh bien, vous passerez un très bon moment. À noter que le réalisateur vient de la pub et ça se sent dans l'image, parce qu'il n'y a absolument rien à noter, sinon que c'est une image à peu près bien léchée, avec des couleurs un peu chaudes qui nous replace bien dans les années 60, mais rien de bien extravagant. Ils insistent énormément sur le côté délirant, voilà, et le côté on prend des drogues, et c'est très amusant.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Et c'est le moment de rendre hommage à François Dupeyron qui est mort ce 25 février. Il a fait Drôle d'endroit pour une rencontre, il a fait ce merveilleux film, enfin moi en tout cas que j'ai beaucoup aimé, C'est quoi la vie, c'était en 99. Il a fait Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, il a fait La chambre des officiers, c'était son plus grand succès, hein, plus de 600 000 entrée en France. Et puis le dernier film qu'il avait fait, c'était Mon âme par toi guérie, et il était venu d'ailleurs bien le présenter.
Oui, avec Grégory Gadebois.
Oui. On l'avait rencontré, Marine. Pour moi, j'avais trouvé ça hyper intéressant. Il avait un discours assez intéressant sur le cinéma où il expliquait que finalement, il avait failli arrêter complètement sa carrière cinématographique parce que les télés n'arrêtaient pas de lui refuser ses scénarios. Pour des raisons qu'on pourrait développer. Mais on va laisser parler François Dupeyron, un petit hommage.
J'ai l'impression que je peux tout dire avec vous.
Je suis François Dupeyron et ça m'arrive de réaliser de temps en temps un film.
Qu'est-ce que tu vas faire ?
Circuler un peu, voir ailleurs. Tu veux que je passe ma vie ici à regarder filer les jours, tous les jours la même chose ? C'est ça, vivre.
Alors, ça tombe bien que vous fassiez cette présentation, parce que hier, quand vous avez présenté C'est quoi la vie, vous avez dit, ça faisait 4 ans que j'avais rien tourné, que j'avais l'impression que je ne savais plus faire de cinéma.
Mais c'est pas que j'avais l'impression, je ne savais plus faire de cinéma. Et d'ailleurs, je ne sais plus trop non plus maintenant. Mais maintenant, je m'en pose plus, c'est plus un problème pour moi, au contraire, je m'en sers. Mais à cette époque-là, je ne savais plus, et surtout je n'arrivais plus. J'avais pas d'idée, j'avais pas d'envie. Dès que j'écrivais quelque chose, ça me plaisait pas. Donc c'est un marasme total. Donc j'étais arrivé à... Ça m'est arrivé deux fois comme ça, enfin, au moins deux fois. Mais cette fois-là, 4 ans, c'est long. Et je me disais, il faut mieux que je change de métier, quoi. Si c'est comme ça, c'est pas pour moi, quoi.
Mais vous allez, vous ?
Je marche avec vous.
L'esthétique, il faut qu'elle bouge, il faut que ça change. Il faut que... Y compris le récit, par exemple, quand on raconte. Par exemple, là, pour revenir au texte dont je parlais au début, sur ce film, j'ai fait le contraire de ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire, au lieu, souvent, pendant le tournage, on dit « Oh, ça, c'est peut-être un peu long, on va le raccourcir. » Ou alors, les acteurs, on leur dit « Tu peux pas essayer de le jouer un peu plus rapide ?» J'ai fait tout le contraire. D'abord, jamais j'ai dit une chose comme ça aux acteurs. Et moi, je rajoutais du texte en permanence. Je trouvais « Ah non, ça, c'est pas... Non, c'est un peu court, ça. Je vais le rallonger. » J'étais libre. Je faisais ce que je voulais. Je n'avais aucune contrainte de rien. Et c'était pas c'est pas le sale gosse là qui est en train de dire tiens je vais rallonger. Non, c'est parce que je sentais que c'était comme ça que c'était bien, que c'était comme ça que ça vivait, et que c'était avant où je m'étais auto-censuré. C'est là où c'est terrible, parce que et c'est là ce qu'on disait avec Yves, parce que ce matin, c'est que avec un producteur où le producteur sans s'en rendre compte et nous sans s'en rendre compte, on passe son temps à s'auto-censurer et à dire oh maintenant et sous des prétextes imbéciles, totalement idiots, parce que pourquoi vouloir aller plus vite, pourquoi vouloir raccourcir, je dis si c'est il faut juste faire vivre quelqu'un.
Tu sens la poule.
Pardon ?
Il y a longtemps que je n'ai pas reniflé une femme, je te confirme, tu sens la poule. La poule de luxe.
Je sens la poule ?
Oui.
Mais la c'est poule. Ridicule.
Quand on dit, voilà, un réalisateur ou un auteur raconte toujours la même histoire, bien sûr, je raconte des histoires différentes, mais c'est vrai que les gens qui sont rejetés, le rejet, ce thème-là revient, moi, je m'en rends pas compte quand je le fais, mais revient en permanence. C'est une femme qui est rejetée sur le bord de l'autoroute. C'est un type qui est défiguré, il est rejeté. C'est un clandestin qui est... Voilà, c'est un rejeté. Je fais un film avec des noirs. Les noirs, c'est des gens rejetés. Et là, c'est un type, il est au bout du comptoir, personne ne le voit, c'est une sorte de rejet. Il est dans le camping, c'est une sorte de rejet. Voilà, ce truc de rejet, chez moi, c'est... Voilà, pourquoi je porte ça, je n'ai une petite idée, mais enfin voilà, je crois que je ne suis pas capable de faire autrement, quoi. C'est comme un instrument, il a un son, ou deux, mais il n'en a pas 3000, hein. Et ben voilà, moi j'ai ce son-là.
Et si on se trompe ?
Vous croyez qu'on se trompe ?
Non, si on ne sait pas où on va, on ne peut pas se tromper.
Voilà, ça donne une petite idée de la sensibilité de ce réalisateur, qu'on aperçoit aussi dans ses films. Là, c'était des extraits de Drôle d'endroit pour une rencontre, où on entend Depardieu et Deneuve. Il y avait des extraits de C'est quoi la vie ? Et puis de Mon âme par toi guérie. Tous ces films, je crois, sont disponibles en DVD. Voilà, c'était le petit hommage à François Dupeyron. Et malheureusement, comme il y a eu cet hommage à François Dupeyron, eh bien,
je ne parlerai pas aujourd'hui d'un jour sans, un jour avec. Je voudrais juste quand même, si les auditeurs nous entendent bien, je leur conseille quand même vraiment vivement d'aller voir ce film avant qu'il ne disparaisse de l'affiche, car c'est réellement pour moi le plus beau film qui est sorti depuis le début de l'année. C'est un film qui pourrait être dans la veine du Hasard de Kieslowski ou Smoking, No Smoking, c'est-à-dire qu'on raconte la même histoire de deux fois, de deux façons différentes, et je pense que c'est vraiment l'un des plus beaux films, et j'en avais pas vu de film de Hong Sang-soo depuis un moment, et vraiment j'ai envie de revoir tout ce que j'ai raté, parce qu'il a fait des films vraiment exceptionnels, notamment Un conte de cinéma et Turning Gate.
Eh bien, je n'avais pas compris que c'était le meilleur film du début de l'année, donc on le mettra en début de sommaire la semaine prochaine, c'est ça.
C'est l'or, il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps.
Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu ! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou !
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Eh bien, Marine, la semaine prochaine, c'est...
Eh oui, moi, je vous parlais de Zoolander 2 du grand cinéma.
Et puis, moi, je ne sais pas du tout. Je pense que j'irai voir Fatima tout de même, parce que je l'ai pas vue. Et puis, eh bien, on reviendra
On reviendra avec Un jour avec, Un jour sans. Et puis, peut-être un film fantastique aussi, en fin d'émission.
Cinérama. Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs.
Rien des combines et de la merde. Y a pas de saint, y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.